France Musique. Les grands entretiens, Philippe Cassard.
Je m'appelle Vincent Koch, le pianiste du trio Wanderer.
Jean-Marc Philippe Varjabédian, violoniste du trio.
Raphaël Pidou, violoncelliste du trio Wanderer.
Alors mes amis du trio Wanderer, pour ce dernier épisode de ces grands entretiens sur France Musique, on s'est quitté hier en parlant du travail sur le trio Archiduc de Beethoven et sur l'évolution de votre interprétation en 35 ans. Raphaël, vous parliez de maturité. Et vous, Vincent, quel est votre avis ?
Le rôle de l'interprète, c'est de faire des choix. Moi, ça me dérange pas si quelqu'un joue extrêmement lent, mouvement lent, si c'est convaincant. Il y a des choses que joue Richter, quelquefois, des mouvements lents. Mais c'est Richter, comme je dis à mes étudiants, c'est Richter. Alors, puis des fois, je peux trouver ça aussi trop lent, mais voilà, il y a une dimension différente. Ou quelqu'un qui va jouer trop vite, si c'est génialement trop vite. Le final du concerto de Tchaïkovski par Argerich, je pense pas que Tchaïkovski l'ait pensé comme ça, mais on est debout à la fin du concert parce que...
C'est étincelant.
C'est étincelant. Il y a quelque chose de... Ça vous prend aux tripes, c'est littéral. Physique. Voilà. Mais il y a quand même, malgré et tout, des tempi qui ont un sens, déjà ceux indiqués par les compositeurs, il faut les prendre avec des pincettes, mais c'est pas non plus absurde de lire ce qui est écrit. Et ça dépend de plein de choses, de l'acoustique, de tout un tas de phénomènes,
paramètres.
Mais effectivement, l'allegro moderato, pour revenir sur l'allegro moderato de l'archiduc, je pense que le mot important, c'est moderato, puisque l'allegro, ce serait un terme...
Et le dolce, voilà, qu'il écrit, piano dolce.
Et allegro, c'est le terme un peu standard qu'il pourrait avoir, mais si mais moderato, c'est une chose qui est importante aussi, c'est, là aussi je radote avec mes étudiants, je leur dis toujours, quand il y a quelque chose écrit par le compositeur, je sais pas ce que ça veut dire, mais il faut essayer de trouver ce que ça veut dire. S'il met un accent, je sais pas comment on dit, un chapeau, ou un tiret, ou un point, ou un tiret qu'un point, tout ça, ça n'a pas le même sens. Et surtout chez les génies, les grands compositeurs. Et notre rôle, c'est essayer de comprendre pourquoi, et que l'auditeur, il perçoive qu'il se passe quelque chose.
Moi, je me souviens que quand on a reçu notre première éducation musicale en France, on est parti donc très vite travailler à l'étranger, notamment avec les Amadeus et d'autres. Et les Amadeus nous disaient, en gros, jouez tout droit, quoi. Arrêtez de ralentir à chaque coin de...
Ah, mais ça, c'est très français, de ralentir toutes les quatre mesures.
Ah, ça, c'était bien impressionnant.
En général, toutes les quatre mesures.
Oui, mais à l'inverse, quand il joue le trio de Ravel, c'était étonnant au niveau des rubatos. C'est là, il y en avait trop, pour le coup. Disons que c'était étonnant. Je me souviens de ça. Et quand on revenait en France et qu'on jouait tout droit, entre guillemets, on disait...
C'est drôle parce qu'on dit... Alors, on joue très allemand. Voilà. Alors que le pianiste qui a pratiqué le plus merveilleux rubato dans la musique de Beethoven, c'est un Allemand, c'est Kempf.
Oui, bien sûr. Et la musique française, paradoxalement, que ce soit Ravel ou Saint-Saëns, Debussy, c'est un peu différent, mais il y a une certaine forme de liberté, mais c'est souvent très droit. Enfin, quand on entend Ravel, c'est une précision millimétrique, même dans les façons d'écrire la liberté. Et Saint-Saëns, n'en parlons pas quand on l'entend jouer du piano. Et c'est drôle quand il y a ces clichés.
Des clichés.
Qui sont arrivés. Et puis Debussy, même si lui-même joue de façon très très libre sa musique, c'est une musique d'une précision. Quand on voit la sonate pour piano et violoncelle, je veux dire, comme disait Geneviève Joie, pour revenir à Geneviève Joie, elle disait que l'interprétation de cette musique, c'est 99% de faire le texte.
Oui. Et c'est drôle parce que quelquefois, quand on a l'habitude de remplir énormément les choses et d'être très passionné dans son jeu, on branche le métronome et on a l'impression de presser. Alors qu'en fait, quand on met le métronome, on a une pulsation, évidemment. Et moi, ça m'arrive des fois de tirer en arrière, comme ça.
Au grand bonheur de vos deux partenaires, je suppose.
Et après, de temps en temps, on met le métronome en équipe, là, et on s'aperçoit qu'en fait, quand on veut garder la pulsation, ben, c'est comme si on pressait, en fait. Alors qu'en fait, on est au...
Il vous arrive de travailler au métronome.
Oui, moi, j'assiste pas mal là-dessus, parce que, pour moi, une des choses majeures de la musique, c'est la pulsation. Je pense que la pulsation, c'est ce qui est né au début où l'homme a commencé à taper sur des troncs d'arbres, puisque en fait c'est l'origine, je pense, de toute musique. Hein, et la musique s'est enrichie progressivement après de mélodies, d'harmonies, de tas de choses. Mais une musique sans pulsation, spécialement chez les classiques, je trouve que Beethoven, par exemple, c'est une musique d'une... C'est rythmique, c'est sauvage même dans le côté de la pulsation. Et je trouve très important, en fait, on doit être amené à ça. Et travailler avec métronome, ça fait énormément de bien. J'ai le souvenir de Gérard Poulet me montrant un exemple, parce que dans le final de Mendelssohn, bah, je prenais un peu mon temps comme je voulais. Et j'ai osé lui dire, oui, mais si je joue métronomique, ça ne va pas être musical. Il dit, mon petit Jean-Marc, il a branché son métronome, et puis il m'a joué le Mendelssohn parfaitement en place, en me montrant qu'il prenait des libertés. Mais il était avec le métronome. Et donc... Là, j'ai compris qu'effectivement, on pouvait faire de la musique tout en restant dans la pulsation.
Jean-Marc, vous vouliez ajouter quelque chose?
Moi, je voulais juste ajouter une chose. C'est une très jolie lettre de Eugène Isaïe sur le rôle de l'interprète. Et c'était un homme extrêmement intelligent, extrêmement cultivé. Et il a un peu résumé en fait le rôle de l'interprète, puisqu'il lui-même était compositeur, donc et interprète. Donc, il arrivait très bien à analyser la responsabilité de l'interprète, qui en fait est énorme, parce que en gros, la musique qui est composée par un génie en général, ça reste une lumière blanche. Il n'y a que les musiciens qui peuvent lire une partition et comprendre ce qui s'y passe. Mais pour le grand public, c'est une lumière blanche qui ne veut rien dire. Et l'interprète, c'est le prisme. C'est lui qui va transformer cette lumière blanche dans toutes les variétés de couleurs qu'on peut avoir. Et suivant la façon dont le prisme interprète cette lumière blanche, on obtient quelque chose de différent. Un exemple pour moi assez frappant, c'est le quintet de Shostakovich qu'on a enregistré il y a un an et demi. J'ai toujours eu, j'adore Shostakovich, mais j'ai toujours eu une impression assez assez lourde et funèbre de ce quintet, musique extrêmement grise, soviétique. Dans une interprétation de référence qui est celle de Richter et de Quatuor Borodine. Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à aller au bout de ce quintet en l'écoutant, parce que je me disais, mais c'est tellement triste, tellement lourd.
Blafard.
Oui, voilà. Et puis, comme disait très justement Vincent, en regardant les tempi que Shostakovich a marqués, qui ne sont pas forcément toujours fiables, je ne sais pas, mais en tout cas, en essayant de suivre ça, et en allant grâce à YouTube, une fois de plus, chercher les interprétations de Shostakovich lui-même, il y a deux versions, une de 40 et une de 44, je crois.
Une 44 et une 50.
Oui, 44-50, voilà.
Ou 40-50.
Et tout d'un coup, il y a une espèce de magie qui s'est opérée en moi. J'ai redécouvert le quintet de Shostakovich et je me suis aperçu que c'était absolument pas une musique sinistre, mais qu'au contraire, il y avait une lueur d'espoir, il y avait un cri d'amour dans le quatrième mouvement, quelque chose de complètement angélique et enfantin dans le final. Et on, sous mes yeux, enfin à mes oreilles, ce quintet s'est complètement transformé.
Et c'était dû à des tempi différents, à
exactement,
un toucher différent,
oui,
des attaques différentes.
Oui. Bah, une volonté qu'ont eu ces grands musiciens que sont Richter et le Quatuor Borodine d'amener peut-être leur ressenti de la sinistrose qu'ils ont pu vivre sous le régime de l'URSS. Oui. Mais qu'en fait, très clairement, Shostakovich essaye de s'échapper de ça. Dans son quintet, il veut transcender ces grisailles environnantes, cette angoisse permanente, et il veut s'échapper de ça. Et donc, nous, on a opté pour cette interprétation qui, du coup, est complètement hors tradition. Puisque, après, évidemment que c'était l'interprétation de référence, voilà, et que tout le monde a joué le Shostakovich comme ça, le quintet. Thank you.
très attention parce que quand on écoute beaucoup une version dite historique, ça reste dans la tête, ça devient une espèce de truc qui est figé dans la tête et on n'en sort pas. Et il faut bien penser que, bien sûr, des artistes peuvent se tromper aussi, mais quand on fait un choix, surtout pour un enregistrement de tempo, quand on fait certains choix esthétiques, c'est pas le hasard, c'est qu'on a réfléchi, qu'on a une volonté. Alors quelquefois, effectivement, il y a des gens qui peuvent se tromper, mais quand déjà on sent que c'est, il y a une sincérité, il y a une logique interne, il faut se poser la question. Enfin, c'est tout à fait vrai par rapport aux certaines critiques qui peuvent arriver, c'est que ce qu'on fait généralement, c'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau au dernier moment.
Avec qui vous avez joué ce quintet?
Avec toujours la même équipe, puisque là, maintenant, on s'est lancé un peu dans une suite d'enregistrements de quintettes pour élargir le répertoire du trio. Christophe Goguet à l'alto et Catherine Montier au second violon.
Avec lesquels vous avez donc fait le quintet de Schumann, voilà. Qui fait partie du coffret, voilà. Schumann, tout à fait. Avec les trios et le quatuor
et prochainement, ça sera quintet de Franck et quintet de Vierne. Que moi, j'ai déjà enregistré, donc ça va être une version différente, puisque moi, j'ai enregistré en tant que quartettiste. Il y a 25 ans de cela.
Ah, c'était pas avec Jean-François Esser?
Non, c'était avec...
François
Cardoncuff, et c'est les disques de la collection Timpani, oui. Qui est une collection qui s'intéresse qu'à la musique française fin 19e, c'est début 20e. Et on avait participé à un coffret Vierne. Et donc, j'avais été absolument fasciné à l'époque par la beauté de ce quintet, qui est un hommage au quintet de Franck, en fait. Et c'est pour ça que j'ai proposé qu'on fasse ça en complément du quintet de Franck, parce que j'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dans cette partition.
France Musique, les grands entretiens du trio Wanderer.
Le trio Wanderer, vous jouez très souvent le triple concerto de Beethoven, et si je poussais la provocation jusqu'au bout, est-ce que ce n'est pas une œuvre plutôt moins réussie dans le corpus concertant de Beethoven?
Vous êtes méchant. Effectivement, c'était peut-être un galop d'essai pour Beethoven qui s'est fait plaisir. C'est pas une œuvre très profonde, on va dire, mais tous les thèmes sont magnifiques. Il était un peu stressé d'écrire, à mon avis, dans cette formation pour le concerto, donc il a mis tous les énoncés de thèmes au violoncelle. Bon, je suis désolé. Mais,
Les violoncellistes. Voilà,
des grands arpèges au piano et des grands arpèges au violon.
Et des gammes,
ce sont des
instruments
solistes, eux. Oui. Et ma foi, moi, j'ai toujours plaisir à jouer cette œuvre. Ça nous met en contact aussi avec la réalité autre du musicien, c'est-à-dire de savoir jouer avec un orchestre et surtout avec un chef d'orchestre. Mais c'est vrai que je trouve que ça reste une œuvre très fraîche. J'aime beaucoup cette œuvre. Moi, je prends beaucoup de plaisir à la jouer, et notamment avec mes collègues.
Je trouve qu'elle est un peu trop dénigrée, parce que il y a beaucoup de compositeurs qui auraient aimé écrire une pièce de ce niveau-là. C'est un Beethoven qui n'est pas tragique, c'est un Beethoven assez solaire. Et la partie de piano, moi, je vois ça comme une symphonie concertante, d'abord. Et ça peut vite partir en petits bouts, enfin, chacun dans son coin, et cette œuvre n'a plus de sens. Il faut trouver une unité. C'est vrai que la partie de piano, ce sont des gammes. Et si on la rate, on a l'air vraiment idiot. Faut se dire les choses. C'est au piano, c'est...
Elles sont sadiques.
Et voilà, exactement. C'est maladroit. Mais Kurt Masur adorait cette pièce. Il la défendait parce que il disait que c'était, on le sous-estimait beaucoup.
Vous l'avez joué avec lui?
Non. On l'a jamais joué. On a joué pour lui une fois, un trio de Mendelssohn, mais il était dans le public, mais c'était dans une petite soirée. Mais on n'a pas joué avec lui en tant que chef, mais j'avais entendu parler de ça.
Mais quand même, la partie de violon, elle est salée.
Réponse à apporter à cette question. La première, c'est qu'effectivement, le plaisir à jouer ce concerto pour le violoniste n'est pas du tout le même que celui du concerto pour violon, pour la simple raison qu'en fait, le violon intervient toujours derrière le violoncelle qui énonce un thème chantant et lui, il fait des galipettes. Et alors, se pose le problème psychologique pour le violoniste j'ai réussi ma première galipette, est-ce que je vais réussir ma deuxième, est-ce que je vais réussir ma troisième. Donc il y a une espèce de parcours du combattant comme ça qui rend la chose assez coriace. Et en plus, au niveau justesse, il est particulièrement compliqué pour le violon, ou violoncelle aussi, mais comme au violon...
Dans les très aigus, sur aigus.
Voilà, c'est des espèces de petits traits un peu mal foutus. J'ai fini par après des années, prendre du plaisir à jouer ce concerto, parce que maintenant je commence à un peu le maîtriser, mais ça reste quand même une épreuve. Par contre, pour nous, pour le trio Wanderer, c'est renforcer, en jouant ce triple concerto, c'est renforcer l'idée qu'on n'est pas seulement une formation de musique de chambre, mais on est une formation de soliste. Et ça, c'est assez important, parce que pouvoir affronter le concerto Beethoven pour un trio constitué, c'est montrer qu'on a justement une dimension de soliste.
Une étoffe.
Voilà. Et j'en veux pour preuve, quand j'ai été de jury au concours international de trio de Lyon, ils avaient eu l'idée assez intéressante de mettre en finale le triple concerto de Beethoven. Et on avait entendu des trios qui étaient tout à fait honorables, mais qui ont beaucoup de mal à passer ce cap. Ce qui prouve qu'il y a des jeunes trios qui se forment, où les gens pensent que, en faisant un gros travail à trois, ils vont arriver à faire quelque chose. Mais en fait, l'essentiel pour un trio, c'est que chacun ait un niveau instrumental qui fasse qu'il soit capable de jouer, par exemple, le triple concerto de Beethoven.
Et c'est une œuvre très populaire, il faut reconnaître, pour le public, parce que c'est pas une musique complexe, et puis c'est de voir trois solistes en même temps. Voilà, on sent heureux quand même à la fin
de ce... Ça tient aussi de la gageure, on se dit comment il doit être ensemble.
Voilà. Mais il y a quand même, il faut citer qu'il y a même deux triple concertos de Martinou qui sont remarquables.
Que vous avez enregistrés.
Oui, oui, et ils sont remarquables. C'est une... Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus équilibré entre les instruments, mais c'est une très, très, très belle musique, ça.
À
c'est
propos franchement... d'interprétation, je me souviens de, on a eu la chance de le, d'être dirigé par Yehudi Menuhin pour le triple de Beethoven, et il nous avait dit « Attention, dans le final, rondo à la polaca, pas trop vite, messieurs. »
Vincent Koch, vous disiez lors de notre entretien en face à face que la première œuvre peut-être de création que vous aviez assurée, le trio Wanderer à l'époque avec Guillaume Sutre, c'était une œuvre de l'étudiant Thierry Esquèche, donc à la fin des années 80.
Oui, tout à fait, oui, c'est 87, un truc comme ça, ou je ne sais plus exactement, mais dans ces eaux-là. Oui, oui.
Et j'ai l'impression que vous n'avez cessé tout au long de ces 34 ans de trio Wanderer, avec ensuite Jean-Marc Philips évidemment, de demander à des compositeurs d'écrire pour vous.
Alors, on n'est pas un groupe qui fait une spécialisation de toute musique contemporaine, mais on en fait peu, mais quand on en fait...
Mais au moins tous les deux ans.
Oui, voilà. On en fait régulièrement, mais surtout on les joue. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas faire créer une œuvre pour créer une œuvre pour créer une œuvre. Ça nous est arrivé comme tout le monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est de la jouer. Alors, la petite pièce de Thierry, d'ailleurs, on l'a enregistrée bien après avec Emmanuel Pahut, 10 ans plus tard, au moins, même 15 ans plus tard. Mais on a fait après le trio de Thierry Esquèche. On l'a peut-être joué 40 fois. On l'a enregistré. On a fait grâce à René Martin, dont on n'a pas parlé, mais le Festival de Rock dans Tirol et Folle Journée, qui a été très, très important pour l'histoire du trio, par les masterclass. C'est tout un tas de choses. On a créé le trio de Bruno Mantovani. Pareil, on l'a enregistré aussi. On peut pas tout enregistrer, mais on l'a joué peut-être 30 fois. Et c'est pareil, on a créé le trio concerto de Philippe Hersant.
Vous passez beaucoup de temps sur ces créations. Ça vous demande, vous qui êtes quand même de formation classique, romantique, disons toute la première moitié du XXe siècle, ça demande une discipline particulière. Est-ce que dans les partitions, il y a des choses absolument inédite pour vous au niveau instrumental?
C'est assez particulier, effectivement, et c'est, comme disait Vincent, c'est pas notre fond de commerce, mais en même temps, on apporte quelque chose d'autre. Alors, et c'est vrai que ça nous pose des problèmes parce qu'en fait, on n'a pas de repères, on peut pas écouter d'autres versions puisque c'est une création. Et puis, c'est le temps de se le mettre dans la tête, en fait, dans les fonctions organiques. Et ça, c'est vrai que ça peut poser pas mal de problèmes, surtout quand les compositeurs vont du côté de la déstructuration. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas un son comme d'habitude, ils ne veulent pas forcément les notes écrites. Je parle pour moi, parce que mes collègues vont me dire « Mais si, nous on fait toutes les notes, mais moi je ne peux pas les faire parce que c'est trop rapide. » Et j'ai eu beau lui dire à Bruno Mantovani, il m'a dit « Mais on s'en fiche. » C'est pas les notes qui sont importantes, c'est la vague que tu crées avec ce que j'ai écrit sur la portée. »
Thank you. Alors, une petite question à chacun d'entre vous. Deux salles dans lesquelles vous avez un plaisir fou de jouer, que vous aimez retrouver. Jean-Marc.
Il y a le Wigmore Hall à Londres, parce que c'est une salle extraordinaire au niveau acoustique, et puis au niveau de l'ambiance, et elle n'est pas trop grande, elle est chaleureuse.
Elle est belle.
Elle est belle, enfin bref. Il y a cette salle à Vienne, la Brahms-Salle, c'est ça
oui. Du Musikverein.
Oui. Voilà. Ça aussi, je garde un excellent souvenir, de toujours pour des raisons d'acoustique. En fait, pour moi, c'est un peu égoïste à ce que je veux dire, mais c'est le moment où tout d'un coup, j'ai l'impression que mon petit violon français, enfin, c'est pas un petit violon français, c'est un beau violon français, mais devient un Stradivarius, quoi.
Alors moi, je dirais Wigmore aussi, c'est la première Wigmore Hall à laquelle j'ai pensé. On y a beaucoup joué, beaucoup.
Et ça, une autre salle?
Alors, une autre salle, le Mozarteum à Salzbourg. Parce que pareil, il y a une acoustique, enfin pour les cordes, c'est génial. Et puis c'est pareil, c'est une salle historique.
Oui, je l'avais oublié.
Et vous, Raphaël?
Et moi, j'ai deux noms immédiats. Alors, une pour l'ambiance, pas forcément pour l'acoustique, mais c'est le Théâtre des Champs-Élysées. Puis j'avais envie de citer Paris, quand même. Et puis la deuxième salle qui me vient à l'esprit, là, c'est plus pour la surprise acoustique, c'est l'Opéra de Dubaï. Là, je ne sais pas qui est l'architecte, mais l'acoustique était vraiment magnifique.
J'ai envie de vous demander à chacun comment vous voyez les 10-15 prochaines années. Est-ce que vous allez aller au bout de vos rêves? En avez-vous de nouveau, des rêves, des projets?
C'est un peu la particularité
Vincent Koch.
Du Wanderer, c'est que on est censé être tout le temps en mouvement, mais ce qui fait un peu la beauté de notre métier, c'est qu'on ne sait pas où on va. Le Wanderer, l'imagerie
itinérance, où il y a le mot errance, en
voilà,
fait.
Voilà, et on va quelque part, mais on est toujours à la découverte de quelque chose de nouveau. Donc ce qui est important, c'est de jamais s'arrêter, je pense, de tomber dans une routine et se dire, ça y est, on a... Si on n'a plus rien à découvrir, je pense que c'est mort, il vaut mieux... cultiver son jardin.
Raphaël, vous les aimez toujours, vos deux compères?
Oui, in love, oui, exactement. Oui. Et ça me rappelle, en fait...
In love
ces réflexions-là de bistrot. Mais comment vous faites pour jouer 500 fois le truc Schubert? T'en as marre? Bah non, en fait. J'en ai pas marre. J'éprouve aucune lassitude. Donc ça, c'est moi.
Et les 10 ans qui viennent, vous les voyez comment?
Et les 10 ans qui viennent, je les vois plein de surprises encore. Mais en même temps, je vis l'instant présent. Moi, j'ai du mal à me projeter.
Et Jean-Marc, c'est se faire un peu peur, les années qui viennent?
Non, moi, ce serait de me faire moins peur. Justement, être de plus en plus à l'aise sur scène, de plus en plus serein, et essayer surtout de garder l'enthousiasme. Voilà.
Vous l'avez toujours, chevillé au corps, cet
enthousiasme? Oui, ça dépend des moments, mais en tout cas, on y travaille.
Schubert, nous écoutions la toute fin du deuxième trio pour piano, violon et violoncelle par le trio Wanderer. Et c'est avec cette magnifique musique que s'achève cette série des grands entretiens avec le trio Wanderer, à la prise de son Pierre Monteil, au mixage Cédric Chatelus, l'attaché d'émission c'était Marie-Christine Ferdinand et à la réalisation Lionel Quentin. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à l'écoute des programmes de France Musique. Demain, je vous retrouve à 14h pour les portraits de famille. Bon week-end!
À réécouter sur francemusique.fr.